RFI, 7h30, à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Un nouveau journal avec vous, Vincent Dublange, et la situation au Nord Kivu, toujours à la une ce matin.
Les combats ont continué hier entre le M23, l'armée congolaise et leurs alliés respectifs. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit lundi. Le président congolais, lui, a convoqué hier les responsables sécuritaires du pays. Il y a 400 000 nouveaux déplacés internes depuis janvier. Nous sommes aussi dans ce journal au Sénégal. On va vous raconter cette séance parlementaire hier qui a vu les députés lever l'immunité de l'un d'entre eux, Farban Ghom, de l'opposition. En Tunisie, son cas est emblématique des restrictions des libertés publiques, selon les défenseurs des droits humains. L'avocate Sonia Dahmani voit sa peine confirmée, quoique réduite en appel.
Goma a été plongé dans le noir. Cette nuit, la capitale du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est touchée par de grosses coupures d'électricité.
Oui, deux lignes à haute tension ont été endommagées ces derniers jours par les combats. Des combats qui se sont poursuivis toute la journée d'hier autour de la grande ville du Nord Kivu. Deux lignes de front à une vingtaine de kilomètres, l'une à l'ouest, à Sake, l'autre au nord, à Kibumba, près du volcan Nyiragongo. L'armée congolaise, ses milices alliées, les soldats de la SADC, principalement sud-africains, combattent le M23, appuyé militairement par les forces spéciales du Rwanda. La MONUSCO, l'ONU, chargée de protéger les civils, participe aussi directement au combat contre le groupe armé à Sake. C'est dans ce contexte que le président congolais réunissait hier le Conseil de défense. RFI Kinshasa, Passion Ligodi.
Premier point abordé, les circonstances entourant la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Le président Tshisekedi a rendu hommage à cet officier qui sera élevé à titre posthume au grade de lieutenant-général. Des obsèques nationales seront également organisées. Autre sujet au cœur des discussions, l'efficacité des services de renseignement et le risque d'une infiltration ennemie dans Goma. Sur le terrain, l'urgence est de repousser l'avancée du M23, appuyée par l'armée rwandaise, et de reconquérir les zones perdues, expliquent des sources militaires. Cela sera, selon elle, la seule façon de venger la mort du gouverneur. Le chef de l'État a aussi donné des instructions pour renforcer les troupes en matériel et améliorer leurs conditions de travail afin de maintenir le moral des soldats. Une attention particulière sera portée à la protection des Goma. La capitale du Nord Kivu est actuellement menacée par deux lignes de front à l'ouest et au nord, à 20 km de la ville. Enfin, le chef de l'État a décidé l'envoi imminent d'une mission de haut niveau au Nord Kivu. Des réunions opérationnelles sont également prévues dans la province pour coordonner et améliorer les efforts militaires. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Félix Tshisekedi qui envoie aussi sa chef de la diplomatie à New York.
Sur demande de la RDC, appuyée par la France en tant que membre permanent, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir lundi à New York donc pour évoquer la crise. L'ONU qui demande une nouvelle fois l'arrêt des combats et qui demande au M23 de se conformer au cessez-le-feu de juillet dernier. Le président angolais, João Lourenço, a pris la parole lui aussi hier. Lui qui dirige une médiation et qui va prendre la présidence de l'Union africaine dans quelques semaines, il veut encore croire, dit-il, au dialogue. Enfin, une autre offre de facilitation est venue d'Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vu son homologue rwandais Paul Kagame. C'était jeudi soir. Et puis sachez, pour être complet, que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France appellent leurs ressortissants à quitter Goma.
Dakar 92 FM.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale lève l'immunité parlementaire de Farban Ghom.
Un député d'opposition, Mohamedou Ngom, de son nom à l'état civil, est un proche de l'ex-président Macky Sall. Le pool judiciaire financier enquête sur des irrégularités financières alléguées. On parle d'un montant de 125 milliards de francs CFA, l'équivalent de plus de 192 millions d'euros. Et Farban Ghom est soupçonné. Léa Lisa Vesteroff a assisté hier à la séance au Parlement.
Fin de plénière agitée, alors que 130 députés s'apprêtent à voter pour une levée d'immunité du député Farban Ghom. Les membres de sa coalition, qui est aussi celle de l'ancien président Macky Sall, tous vêtus de blanc, quittent l'hémicycle, boycottant le vote. Pour Aïssata Tall Sall, ex-ministre de la Justice sous Macky Sall, lever l'immunité de Mohamedou Ngom n'est pas suffisamment justifié.
Lorsqu'on nous dit « vous n'êtes pas une commission d'enquête », sur le principe cela est vrai, mais nous voulons qu'il soit porté à notre connaissance les faits qui sont reprochés à notre collègue Mohamedou Ngom et qui fondent la demande de lever de son immunité parlementaire. C'est quand même un minimum.
Pour le président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, le PASTEF, Aïb Dafé, toute la procédure a bien été respectée.
Les documents sont bien disponibles. Il y a une demande de levée de l'immunité parlementaire qui est motivée. Et vous avez entendu le rapport les faits pour lesquels Farbangom est susceptible d'être poursuivi.
Parmi les infractions présumées recensées par le parquet financier, le blanchiment de capitaux, l'escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption, le trafic d'influence et l'abus de biens sociaux, le tout autour de transactions suspectes pour un montant de 125 milliards de francs CFA auxquels Farbangom serait mêlé. Léa Lisa Vasterhoff, Dakar, RFI.
À 6h35 à Dakar comme à Ouagadougou, merci d'écouter RFI Matin. L'information africaine, ce sont aussi ces mots renouvelés, martelés par les soutiens de Maître Guy Hervé Kam au Burkina Faso. Son collectif d'avocats continue de parler de détention arbitraire un an après son arrestation. Les autorités burkinabées lui reprochent sa participation présumée, je cite, à un complot. Maître Saïd Larifou est comorien. Il fait partie du collectif des avocats de Guy Hervé Kam.
Maître Kam est très respectueux des institutions, notamment judiciaires de son pays, étant avocat. Il est respectueux également de toutes les institutions de son pays. Il est très attaché aux valeurs de son pays. Donc, que ça soit retenu par tous que Maître Kam n'est en conflit contre personne. Ça fait déjà bientôt un an que notre client n'a pas été confronté à un juge et que ses demandes répétées pour être entendues n'ont jamais fait l'objet d'aucun examen. La législation en vigueur indique clairement que la détention provisoire ne doit dépasser 8 mois. Et ça fait déjà un an qu'il n'a pas été attendu. Il s'agit de ce fait d'une détention qui ne repose sur aucune décision, sur aucune base légale. Cette détention nous semble arbitraire, contraire aux textes en vigueur au Burkina Faso et contraire aux différents engagements internationaux signés par le Burkina Faso également. Nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui pour quel motif juridique notre client est retenu et détenu à la maison d'arrêt.
Des propos recueillis par David Baché.
L'ancien dictateur gambien Yahya Jammeh annonce vouloir revenir dans son pays.
Dans un message audio à ses partisans, Yahya Jammeh, qui a dirigé la Gambie d'une main de fer entre 1994 et 2017, il vit en exil en Guinée équatoriale depuis qu'il a été contraint de quitter le pouvoir à la suite de sa défaite à l'élection présidentielle face à l'actuel président Adama Barrow. Lisa Fabian nous livre les détails.
Le message dure une trentaine de minutes. D'une voix lente, Yahya Jammeh s'adresse aux membres du parti qu'il a fondé, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, dans lequel il promet de remettre de l'ordre. Mais le dictateur en exil semble aussi envoyer un message aux autorités gambiennes et même à la CDAO qui a décidé mi-décembre d'établir un tribunal spécial pour la Gambie afin de juger les crimes commis durant ses 22 ans de règne.
Le jour de notre rendez-vous approche et ce sera aussi le moment de rendre des comptes. Mais si vous fuyez, je vous retrouverai. Ne fuyez pas, attendez-moi, arrêtez-moi et mettez-moi en prison si c'est ce que vous voulez. Vous pensez que j'ai peur de comparaître devant la justice ? Par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, je vais revenir, que ça leur plaise ou non.
Ce n'est pas la première fois que Yahya Jammeh annonce son retour prochain dans un message audio, alors qu'il conserve une influence sur la vie politique de son pays. Les défenseurs des victimes de son régime espèrent précisément que la création d'un tribunal spécial par la CDAO poussera les États membres à faire pression pour que l'ancien dictateur soit traduit en justice.
Lisa Fabian.
En Tunisie, l'avocate Sonia Dahmani reste en prison.
On se souvient de son arrestation vécue en direct sur France 24. Hier, la justice tunisienne a confirmé en appel sa condamnation. Elle a légèrement réduit la peine, 1 an et demi au lieu de 2. Cette figure médiatique avait dénoncé à plusieurs reprises, notamment le traitement fait aux migrants subsahariens en Tunisie, les atteintes aussi dans son pays à la liberté d'expression. Sonia Dahmani qui est poursuivie dans 5 affaires. Écoutez Hatem Nafti, essayiste politique. Il est aussi opposant au régime de Kais Saied en Tunisie. Il réagit à ce jugement.
C'est des condamnations pour l'exemple. Et de fait, ça marche. Parce que Sonia Dahmani, avant d'être avocate, elle est surtout connue pour être une chroniqueuse et une journaliste. Il y a un avant et un après arrestation de Sonia Dahmani et de deux de ses collègues qui ont été arrêtés le même jour dans 3 affaires différentes. On a vu le recul net de la liberté d'expression dans les médias audiovisuels privés, les publics s'étant déjà transformé en caisse de résonance du pouvoir en place. Mais clairement, on voit une grande différence entre l'avant et l'après-arrestation de Sonia Dahmani. Aujourd'hui, il y a très très peu de journalistes dans les médias audiovisuels qui continuent à porter une parole critique, même légèrement critique. Et donc ces arrestations, ces condamnations sont autant de messages pour les journalistes, pour leur dire, mais si vous critiquez le régime, si vous critiquez, si vous n'êtes pas en tout cas dans les petits papiers du régime, voilà ce que vous risquez.
Le Soudan et l'armée qui affirment avoir brisé le siège de son quartier général à Khartoum, un siège qui avait été encerclé très vite dès le début de la guerre en avril 2023 avec les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR qui contestent cette avancée de l'armée à Khartoum, difficile d'obtenir des informations indépendantes.
L'Égypte et la Somalie poursuivent leur rapprochement.
Les deux pays ont conclu un accord de partenariat stratégique au niveau politique, économique et surtout militaire, accord signé lors de la visite au Caire, c'était jeudi, du président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Le but officiel, renforcer la lutte contre le terrorisme en Somalie. Mais le dossier, bien sûr, est inflammable au vu des tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie. Et alors que l'Éthiopie partage une longue frontière avec la Somalie et que ses forces sont largement déployées, elles aussi, contre les Chebabs. RFI au Caire, Alexandre Bouchanti.
Depuis le mois d'août, ce n'est pas moins de 3000 militaires égyptiens qui ont été envoyés en Somalie. Officiellement, ils participent à l'entraînement des forces somaliennes pour combattre le terrorisme et sécuriser le pays. L'Égypte a aussi fait 3 livraisons d'armes légères à la Somalie. À partir de cette année, les militaires égyptiens doivent être intégrés à la mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Du Caire, le président Abdel Fattah el-Sissi a réitéré que la présence militaire égyptienne n'était dirigée contre personne. Rappelons toutefois que l'Égypte et l'Éthiopie, le grand voisin de la Somalie, sont en conflit sur les eaux du Nil suite à la construction d'un barrage par Addis Abeba. Un accord de coopération militaire a aussi été signé en octobre entre l'Égypte et l'Érythrée. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
L'Égypte, qui est quasiment qualifiée pour les quarts de finale du mondial de handball, victoire hier face à la Slovénie 26-25. L'attaquant égyptien Omar Mahmoud, qui pourrait jouer dès ce soir, vous le savez, s'est engagé avec Manchester City. Manchester qui joue à 17h30, temps universel contre Chelsea dans le championnat de foot anglais. Et puis à 17h, TU, les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers qui rejouent à Paris, deuxième match, le Camerounais Pascal Siakam tentera de battre cette fois Victor Wembanyama. Être fier de sa culture, de ses ancêtres, direction le Cameroun et Yaoundé justement pour refermer ce journal. On est au musée à Yaoundé où se tient un festival en ce moment en hommage à deux des plus anciennes civilisations connues du continent africain, les Sao et les Kotoko. Des représentants sont venus du Nigeria, du Tchad et du Ghana pour célébrer un héritage commun. Richard Onanen a été là.
Et pour la réception des visiteurs ordinaires, c'est...
Abakar fait la visite guidée d'une case traditionnelle Kotoko, une maison en terre cuite de forme circulaire dans laquelle on retrouve un lit incrusté, un coin cuisine et ses ustensiles d'argile, un grenier, mais pas que.
Ici, c'est les canaries d'eau. Quand c'est dans la cour, on y met de l'eau à boire.
Construite au village du festival, dans l'esplanade du musée national, la case Kotoko attire des centaines de curieux. Joël Ginkam est ravi de la découverte.
Et ça nous permet aussi de voir les outils et les instruments de la vie familiale dans un espace culturel comme celui-là.
Le son des trompettes traditionnelles et des tambours rythme les allées venues des sultans, les rois des communautés présents au village du festival. Dans les stands, on peut apercevoir des armes forgées, des pirogues de pêcheurs traditionnels, des produits de beauté et les coiffures qu'abordent les femmes Kotoko depuis des millénaires. C'est le premier regroupement des Kotoko depuis plus de 10 ans. Sa Majesté Marmataba II, sultan de Kousséri, se réjouit de cette nouvelle communion entre descendants du Sao, même éloignés de leurs terres ancestrales.
Nous avons décidé aujourd'hui de célébrer nos anciens ici à Yaoundé. Quand on parle de Kotoko, il faut déjà penser au Sao. C'est grâce à eux que les parents ont pu donc bâtir cet empire Kotoko fêté aujourd'hui.
Le festival regroupe des milliers de Kotoko du Cameroun, Tchad, Nigeria et même du Ghana. Plusieurs notables de ces différents pays ont été anoblis au cours du festival. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
À Yaoundé comme à Paris, 7h44, Julien Coquelroy.
Merci Vincent Dublange.